En 1926, cela ne nous rajeunit pas, au cours de fouilles archéologiques menées à Kerazé, ville à proximité du lac de Galilée, c'est-à-dire non loin de Capharnaüm, on a trouvé dans la synagogue un très beau siège taillé dans la pierre, portant mention d'une dédicace. Il s'agissait d'une chair de Moïse, sur laquelle, dans l'Antiquité, le maître était assis et enseignait la Torah ou bien rendait la justice. Cela conférait au rabbi l'autorité de Moïse lui-même. C'est dire l'importance symbolique pour les Juifs de ces chairs de Moïse dont on trouve des exemplaires dans certaines synagogues antiques du Proche-Orient. Et nous pourrions dire que d'une certaine manière, les cathèdres de nos évêques sont comme de contemporaines chairs de Moïse, puisqu'elles sont le signe de leur pouvoir, en particulier de leur capacité à nous enseigner de la part de Dieu. Jésus évoque la chair de Moïse dans l'Évangile selon saint Matthieu quand il recommande à ses interlocuteurs d'écouter les scribes et les pharisiens lorsqu'ils enseignent, mais de ne pas les imiter quand leurs actions contredisent leurs paroles. Vous savez bien, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Et d'une certaine façon, Jésus dénie toute autorité à ceux qui disent mais ne font pas, même s'ils siègent dans la chair de Moïse. Et c'est bien de cela dont il est question dans les lectures de ce jour. Qu'est-ce qui fait autorité, notamment sur le plan spirituel? La chair de Moïse, voire même la cathèdre, ne suffit pas. Pour répondre à la question « qu'est-ce qui fait autorité ?», en particulier dans le domaine de la foi, écoutons ce que révèle le Seigneur par sa parole ce matin. Ce que nous dit Dieu à travers les textes que nous venons d'entendre, c'est qu'une parole d'autorité est une parole prophétique, une parole d'autorité est une parole efficace, une parole d'autorité est une parole qui fait vivre, qui amène à la vie. Une parole d'autorité est tout d'abord une parole prophétique, parce que vous le savez bien, chers frères et sœurs, un prophète est celui qui parle en avant de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Dieu. Pour mener son peuple en terre promise, Dieu s'est choisi un prophète, Moïse, qui sert de médiateur et de porte-parole. Ce choix n'est pas dicté par les qualités oratoires de Moïse. Rappelez-vous, dans le livre de l'Exode, Moïse se récrie quand Dieu lui confie la mission parce qu'il confie qu'il a la bouche lourde et que sa langue est pesante. Les spécialistes disent que peut-être Moïse était atteint de bégaiement. Non, ce sont d'autres compétences qui justifient l'appel du Seigneur, au premier rang desquelles se trouvent l'humilité et la fidélité. Là, pour le coup, Moïse est pour nous un modèle. Rappelons-nous ce que dit le livre des Nombres quand il parle de Moïse comme quelqu'un de très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté et digne de confiance. Une parole d'autorité est donc une parole qui engage plus que moi-même. Elle engage là où les personnes au nom de qui j'accomplis ma mission. Pour paraphraser saint Paul, nous pourrions dire que personne ne parle pour soi-même en régime chrétien. Nous parlons au nom de l'Église, au nom de Dieu, mais jamais au seul titre de notre petite personne. La parole perd de son autorité, à contrario, lorsque le prophète dévoie sa mission, soit en utilisant le nom de Dieu pour dire une parole non reçue de lui, je fais passer mes pensées pour celles de Dieu, et vous voyez bien toutes les sortes d'abus spirituels à quoi peut conduire une telle pratique. Je fais passer pour parole divine ou pour révélation de Dieu ma pensée, mon sentiment. Vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela, parce que le Seigneur me l'a inspiré. Deuxième mise en garde du Seigneur, toujours dans le livre que nous avons entendu, le livre du Deutéronome, un prophète peut dévoyer sa mission en mettant sa parole au service d'autres dieux. Je tords la parole de Dieu pour la faire défendre des causes mondaines. Pouvoir, sexe, argent, science, etc., etc. Voilà, pour nous aider à savoir ce qu'est un véritable prophète, nous n'avons pas à aller chercher midi à 14h. Évidemment, le modèle du prophète, c'est Jésus. Jésus dont il est dit dans ce très beau passage qu'on dit des pèlerins d'Emmaüs à la fin de l'évangile selon saint Luc. Jésus est un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Cléophas, le disciple d'Emmaüs, comme les gens réunis dans la synagogue de Capharnaüm, pressentent bien que Jésus ne parle pas pour lui seul, mais que sa cause le dépasse. Elle est celle de Dieu et du peuple, justement. Si une parole d'autorité est une parole prophétique qui nous dépasse, une parole d'autorité est aussi une parole efficace. Mais alors pourquoi les personnes rassemblées à la synagogue de Capharnaüm font-elles la différence entre Jésus, qui enseigne en homme qui a autorité, et les scribes ? Je vous pose la question, qu'est-ce que vous répondriez, vous ? À votre avis, pourquoi les gens présents à la synagogue de Capharnaüm repèrent qu'avec Jésus, il y a quelque chose de nouveau ? Comment se fait-il que sa parole à lui fasse autorité et non pas celle des scribes ? On va essayer de chercher ensemble la réponse. Les scribes, vous le savez bien, sont des lettrés qui fondent leur enseignement sur un savoir transmis de maître en maître, sur une tradition pluriséculaire d'études de la loi. Ne raisonnons pas trop vite en disant « les scribes, ce sont les méchants de l'Évangile », avec les pharisiens, les sadduciens et quelques autres. Les scribes, ce sont d'abord des hommes qui sont profondément pétris de la parole de Dieu, qui la murmurent jour et nuit, qui en font leur délice. Et pourtant, quelque chose cloche. Jésus est un homme à qui on permet de commenter l'Écriture à partir de la chair de Moïse. On peut imaginer, dans la synagogue, cette chair à partir de laquelle il enseigne. Alors qu'il ne semble pas, en tout cas, l'Évangile ne nous le dit pas, il ne semble pas faire partie de la caste des scribes. Eh bien, peut-être que la différence entre eux et lui tient à ce qu'il n'y a pas l'épaisseur d'un papier à cigarette entre ce que dit Jésus et ce qu'il fait. Allons même plus loin. Ce qu'il est, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est tout un, c'est la même chose. Contrairement aux scribes, dont les actes semblent contredire les paroles. Et vous le savez bien, une parole est d'autant plus efficace qu'elle apparaît en cohérence avec un comportement. Là, je m'adresse aux plus jeunes d'entre nous. Si je vous posais la question, voilà, quels sont les professeurs qui vous marquent le plus ? Chez vos instituteurs, chez vos professeurs, quels sont ceux en qui vous reconnaissez le plus d'autorité ? Qu'est-ce que vous répondriez ? Maïol, si je te posais la question, qu'est-ce que tu me dirais ? Ils sont gentils, ouais, mais ça ne suffit pas. En tout cas, tu vois, si je réponds avec ma propre expérience, eh bien, les professeurs qui m'ont marqué, ceux qui ont pour moi le plus d'autorité, eh bien, c'était des hommes et des femmes qui disaient et faisaient, en qui il y avait une vraie cohérence de vie. Oui, une parole efficace, c'est une parole qui passe à l'action, qui ne se paye pas de mots. Face à l'esprit impur, dont les paroles manifestent la confusion, vous aurez noté le passage du jeu au nous, Jésus se montre économe en paroles, mais elles ont un effet immédiat. Elles imposent le silence à l'esprit et le font sortir de l'homme tourmenté. La parole de Jésus est efficace contre le mal en s'opposant à toute forme d'expression de celui-ci. Alors, bien évidemment, la parole de Jésus est efficace parce qu'elle est parole de Dieu, bien sûr. Mais nous sommes dépositaires de cette parole efficace dans les paroles sacramentelles, dans les prières d'exorcisme. Vous voyez, tout à l'heure, une petite Augustine va être baptisée dans cette église et je vais dire une prière d'exorcisme pour demander au Seigneur, eh bien, d'éloigner le mal d'Augustine, pour faire en sorte que jamais le mal n'ait prise sur elle. Eh bien, cette parole est une parole efficace, de lutte contre le mal. Elle fait ce qu'elle dit. Et puis nous avons aussi, chers frères et sœurs, des moyens d'apporter une parole efficace. Rappelez-vous notre fil rouge spirituel de l'année. La bénédiction est une parole efficace pour dire le bien. Lorsque nous vivons des situations difficiles, eh bien, nous pouvons demander au Seigneur sa bénédiction. Et d'abord, vous le savez bien, la parole de bénédiction est d'abord une parole qui bénit le Seigneur, qui reconnaît sa présence et son action parmi nous. Enfin, la parole d'autorité fait vivre, elle fait profondément vivre. Vous connaissez peut-être, frères et sœurs, l'étymologie du mot « autorité ». Cela vient du latin « augere », qui veut dire « augmenter », « faire grandir », »,« faire croître ». La parole d'autorité est une parole de vie pour celui qui l'énonce et pour celui qui l'entend. Alors, bien évidemment, là encore, la parole de Jésus est par essence une parole d'autorité, une parole qui fait grandir lui qui est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Jésus ne peut pas faire autrement que de dire une parole de vie, car il est la parole de la vie. En le débarrassant de l'esprit impur, Jésus permet à l'homme possédé de retrouver son humanité. Et notons-le, de parler à nouveau de sa propre voix. Il le débarrasse de la parole parasite de l'esprit impur. Les paroles de la liturgie prennent leur source dans la parole du Christ. Je pense en particulier aux paroles de l'Eucharistie, qui sont par excellence des paroles qui nous font grandir dimanche après dimanche dans la communion avec le Seigneur et entre nous. Eh bien, ces paroles-là nous rendent plus humains en ce qu'elles sollicitent en nous le meilleur de ce qui nous fait vivre. Alors, il faut que la parole d'autorité soit entendue. Il faut que nous ouvrions les oreilles de notre cœur pour que cette parole, eh bien, elle soit pleinement efficace. Oui, la parole de Dieu, c'est une parole d'autorité à faire entendre à temps et à contre-temps. Pour cela, le Seigneur a besoin de prophètes que nous sommes tous par notre baptême, prêtres, prophètes et rois. Rappelons-nous ce que dit saint Paul dans sa lettre aux Romains, « Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ?» Nous sommes appelés à être, à notre tour, témoins de la parole d'autorité de Dieu en la faisant entendre dans nos vies d'abord par notre comportement, mais aussi en faisant résonner la parole autour de nous, en la transmettant, si possible, à nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, nos voisins. Oui, cette parole d'autorité ne peut pas agir en définitive si elle n'est pas pleinement entendue, si elle n'est pas pleinement écoutée. Et c'est peut-être cela, finalement, dont manque notre monde contemporain. C'est surtout d'être à l'écoute. Alors, demandons au Seigneur, eh bien, cette grâce non seulement de faire parvenir la parole d'autorité, cette parole qui fait vivre, qui fait grandir autour de nous, à nos contemporains, mais peut-être plus profondément, et dont ceci d'abord d'expérience à grandir dans l'art de l'écoute. Là, oui, Seigneur, parle, que ton serviteur écoute. Amen.